Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, nous plongeons dans une situation assez incroyable. Comment le bras droit d'un dictateur fait-il pour remporter une élection, dans un pays économiquement en ruine?
Ouais, et avec une population qui est complètement désespérée de voir un changement.
C'est tout le paradoxe. Le 30 juillet 2018, le Zimbabwe organise ses toutes premières élections générales sans Robert Mugabe. Et ça, c'est seulement 8 mois après le putsch militaire.
8 mois, c'est extrêmement court pour préparer un tel scrutin.
Très court. D'où notre question centrale aujourd'hui. Ce scrutin marquait-il une véritable tentative de transition institutionnelle ou juste un ravalement de façade pour maintenir un régime autoritaire?
Moi, je soutiens qu'il y a eu une réelle dynamique de transition. Imparfaite, certes, mais bien tangible.
Contexte de plus près. La population, épuisée par des années d'hyperinflation, s'est déplacée massivement.
C'est vrai, la participation était historique.
Voilà, on était autour de 85,2%. Et ça, ça prouve qu'il y avait un espoir immense de renouveau. Surtout face à Nelson Chamisa, un candidat de 40 ans issu de l'alliance MDC.
L'opposition historique, oui.
Contre Emmerson Mnangagwa de la ZANU-PF.
Exactement, le parti était en place depuis des décennies.
Mais au-delà de cet enthousiasme, on a vu les institutions fonctionner. L'opposition a utilisé les recours juridiques, des commissions d'enquête ont été ouvertes, l'État a véritablement essayé de jouer le jeu de la démocratie.
Jouer le jeu, c'est vraiment le mot juste. Faut pas oublier qui est Emmerson Mnangagwa, qu'on surnomme d'ailleurs le crocodile.
Un surnom qui en dit long, je vous l'accorde.
Absolument. Ce n'est pas un réformateur sorti de nulle part. C'est l'ancien chef des services de sécurité, le pur produit de l'appareil répressif de Mugabe. Et regardez comment il gagne, avec 50,8% à la présidentielle. C'est un calcul millimétré.
Vous parlez de ce score serré, un peu plus de 50%, comme d'une preuve de manipulation. Mais ça aurait pu être bien pire, non ?
Non, c'est justement la précision mathématique de ce résultat qui pose problème. Franchir la ligne de justesse permet d'éviter un second tour face aux 44,3% de Chamisa, tout en maintenant une illusion de compétition.
Je vois ce que vous voulez dire.
Surtout quand, en parallèle, la ZANU-PF s'octroie 145 sièges aux législatives contre à peine 63 pour l'opposition. Ce n'est pas un hasard démocratique, c'est l'ingénierie d'une élection fabriquée pour verrouiller un putsch.
Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous donner une autre perspective. La transition de la rue aux institutions.
Je vous écoute.
Bon, c'est vrai, la contestation post-électorale a tragiquement basculé le 1er août, quand l'armée a tiré sur la foule. Mais ce qui est inédit, c'est la réaction du pouvoir juste après. Mnangagwa crée la commission Motlanthe.
Présidée par un ancien président sud-africain.
C'est ça. Et mieux encore, il accepte publiquement un rapport qui corrige à la hausse le bilan de sa propre police. Il reconnaît 6 morts au lieu de 3 et 35 blessés. Exposer publiquement les fautes meurtrières de son armée 8 mois après un coup d'État, n'est-ce pas une preuve de transparence majeure ?
Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi.
Allez-y.
Cette commission, c'était l'équivalent d'appeler les pompiers après avoir volontairement incendié sa propre maison, juste pour que la compagnie d'assurance vous voie faire de beaux efforts.
Et la compagnie d'assurance, dans ce scénario, ce sont les investisseurs étrangers.
Exactement. Le nouveau pouvoir martelait un slogan « Le pays est ouvert aux affaires ». Il fallait rassurer la communauté internationale à tout prix.
Donc pour vous, c'était purement utilitaire.
Les faits documentés par Amnesty International et Human Rights Watch le prouvent. Aucune recommandation de la commission n'a été appliquée. Zéro poursuite judiciaire, zéro indemnisation pour les familles. Avouer des morts sur le papier pour charmer des investisseurs sans rendre la justice, c'est du pur marketing politique.
Mais on ne peut pas réduire tout cela à une simple opération de communication quand le droit s'en mêle formellement. Le 24 août, la Cour constitutionnelle a examiné les accusations de fraude.
Et elle les a rejetées.
À l'unanimité. Parce que l'Alliance MDC manquait de preuves tangibles. Les institutions juridiques ont tranché selon le droit en vigueur, pas selon le bon vouloir du président.
Mais enfin, comment voulez-vous rassembler des preuves de fraude quand le parti État contrôle chaque maillon de l'administration ?
C'est difficile, certes, mais...
Et surtout quand les violences militaires du 1er août ont déjà instauré la terreur. La justice n'opère pas dans une bulle. Les tirs dans la rue ont dicté la réalité bien avant que les juges ne se prononcent.
Je comprends l'argument du climat de peur.
Et la suite nous a donné raison. La réélection tout aussi contestée de Mnangagwa en 2023 et le maintien de la répression prouvent que le système n'a jamais voulu s'ouvrir. Le slogan d'ouverture était une illusion totale.
Il n'en reste pas moins que cette élection de 2018 a agi comme un test grandeur nature. Pour la première fois depuis presque 40 ans, des institutions fondamentales ont été obligées de se mettre en mouvement et de justifier leurs actions publiquement.
Elles ont été mises en mouvement, c'est vrai, mais dans un cadre rigoureusement dessiné par les militaires. La violence de la rue a eu le dernier mot, prouvant que les élections ne suffisent pas à effacer un coup d'État.
C'est toute l'ambiguïté vertigineuse de ces tentatives. Sortir d'un long règne autoritaire par les urnes est un processus ultra complexe. Ça nous invite tous à réfléchir lorsqu'on modifie le nom inscrit sur le bulletin. Réussit-on vraiment à changer le système qui contrôle l'urne ? Il y a encore beaucoup à analyser sur ce sujet. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.